Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez assister à un épisode un petit peu particulier. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un épisode. Nous avons tourné des scènes séparées, cette fois sans transition entre les scènes, puisque on a considéré que l'arc narratif de Brienne les Flots arrivait à son terme. On s'est dit qu'il était temps pour le groupe d'explorer d'autres pistes, de bouger, histoire de respirer un peu. Il s'est passé beaucoup de choses, ce qui n'exclut pas un retour. Et il fallait que cela reste cohérent et que ce départ se fasse dans des conditions qui sont décidées. Par conséquent, le groupe a pris des décisions hors champ sur les dernières choses qui restaient à faire, juste après d'ailleurs les événements qui ont terminé l'épisode précédent, hein. Et donc, ça se résume en quelques scènes qui ont été jouées, donc comme je disais, sans transition et séparément, à savoir que le groupe s'est scindé en plusieurs pour pouvoir jouer ça séparément. Je l'ai déjà dit 3 fois, de sorte qu'on n'ait pas besoin de se regrouper pour une session complète, en fait, pour que la prochaine session, vraie session de jeu soit dédiée à la suite et qu'on ne perde pas de temps. Néanmoins, vous allez voir, enfin, je le pense, ça a été bien fait, ce sont de vraies scènes jouées. Vraiment, il n'y a rien de scénarisé, c'est juste qu'on a décidé de ne jouer que ces scènes-là pour terminer. Voilà, donc bah écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier groupe. Alors, Gauvain et Balian, vous avez décidé, juste après l'épisode du port, de vous rendre à nouveau chez Marcellus de Lumiel. Si j'ai bien compris, Balian, tu es repassé prendre ta hache sur le bateau, que tu as pu emmener avec toi dans les rues sous couvert de la nuit. Et
Oui,
vous êtes
c'est l'idée.
donc, c'est ça? Et vous êtes maintenant dans les rues, il y a encore un petit peu d'activité, mais personne ne fait vraiment attention à vous. Vous êtes devant la demeure de Marcellus de Lumiel. Un chariot est arrêté non loin, que vous avez déjà vu.
D'accord.
Que faites-vous?
On va frapper la porte.
Ben on va frapper la
Mais
porte.
oui, frapper à la porte, pas frapper la porte.
Ça marche. Quelqu'un vous ouvre et ça a l'air d'être l'un des serviteurs ou un des valets plutôt que vous aviez déjà vu lors de la soirée, qui a priori s'est terminée d'ailleurs. Vous vous en doutiez un peu. Je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que c'était pas le même jour.
Oui, la soirée, c'était la
Oui,
veille.
non, c'est une erreur. La fatigue sans doute. Mais vous reconnaissez néanmoins ce valet qui vous ouvre. D'abord, il voit Gauvain en premier. Il voit la silhouette de Balian derrière. Ne semble pas repérer la hache. Oui, bonsoir.
Soir, nous venons voir Monsieur de Lumiel. Nous avons affaire avec lui. J'ai un sourire. Assez sympathique.
Qui dois-je annoncer?
Si ça ne vous dérange pas, nous pourrons nous annoncer nous-mêmes. Et je fais un pas pour entrer.
Tu vois qu'il commence à refermer un peu la porte. Non, non, je ne peux pas vous laisser rentrer. Je vais devoir aller le prévenir.
J'insiste
et
je
je pousse.
bloque la porte. Je bloque la porte pour pas qu'il puisse la pousser.
Ah, mais qu'est-ce... Attendez, non, non, vous pouvez pas rentrer, vous ne pouvez
On
pas
vous a
rentrer.
dit, on vous a dit qu'on devait parler à Monsieur Delumiel. Donc, soyez gentil, laissez-nous rentrer.
Il voit Balian,
C'est vous.
il voit la hache.
Elle est emballée, hein.
Ah,
Je
tu
la
l'as emballée,
porte
pardon,
visiblement.
d'accord.
Oui, je l'ai emballée. Oui, je voulais te le dire, mais du coup, en fait, y a un tissu par-dessus, donc en fait. Il n'y a que quand j'enlèverai le tissu qu'on verra vraiment ce qu'il y a dessous. Donc je la
D'accord.
tiens à une main et j'ai bloqué la porte avec l'autre main.
Très bien.
Du coup, je regarde le serviteur et je dis si vous voulez bien nous conduire jusqu'à Monsieur de Lumiel.
Faites-moi un test. Je vais le faire pour Balian. Tu vas me faire un test de robustesse et éloquence, puisque c'est un peu la menace qui va compter. Difficulté 6.
Alors, du coup, dans mon souvenir, c'est comme ça. Évidemment. C'est trop beau que ça fonctionne. Hop. Alors, normalement, ça doit marcher. Là, non, ça n'a pas marché. Bon,
C'est
bah alors,
slash roll.
on va faire différemment.
C'est ça, mais il faut que tu fasses slash roll plutôt que rolling.
Mais je sais pas, ah bah oui, parce que du coup, ok, c'est bon, mais c'est pas grave. Alors, hop.
C'est
Il
bon.
y a un plus 1, il y a un plus 1 de toute façon, et l'autre c'était un D6, mais
Très bien.
parfait.
C'est bon.
Voilà.
Il déglutit. Bon, il n'a pas non plus conscience d'un danger imminent, mais vous avez l'air d'être là pour de bonnes raisons. Très bien, venez, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment.
Ne vous inquiétez pas.
Il dit rien, il baisse la tête et il dit, bah, suivez-moi, il doit être dans son bureau. J'espère qu'il acceptera de vous recevoir.
Non, vous inquiétez pas, je vous l'ai dit.
Vous entrez, vous gravissez les escaliers et vous commencez à entendre des bruits de voix en haut. Ouais, ici, c'est bon. Vous entendez des bruits aussi avec ça. Vous gravissez les escaliers. Et vous arrivez finalement jusqu'à des lieux que vous connaissez maintenant, jusqu'au bureau de Marcellus de Lumiel. Le bureau qui a servi aussi de lieu de pseudo-rituel où vous avez tous les deux eu des visions.
Du coup, je remercie le serviteur. Je frappe moi-même à la porte et j'entre.
Vous rentrez et il y a du bruit. Donc vous êtes face au bureau. Et vous entendez du bruit, non pas au petit étage, il y a des escaliers derrière le bureau, plus haut, là où vous étiez, derrière la sphère, il y a du bruit. Vous entendez des voix. Et lorsque vous êtes rentré, en bas des escaliers, il y a deux hommes armés qui vous voient, que vous reconnaissez,
Nous
des
se connaissons.
mercenaires, ceux de la grotte. Enfin, toi, Balian, tu ne les reconnais pas.
Non.
Mais
Moi, je pensais que c'était ceux qu'il avait pour récupérer le chariot, en fait.
non, ce n'est pas eux.
D'accord.
Je crois qu'on a un problème. Ils sortent leurs armes, d'autres déboulent, et au total, c'est quatre hommes armés qui apparaissent et qui descendent de chaque côté de l'escalier.
Je mets les mains en l'air pour montrer que je ne souhaite pas plus de problèmes que ça. Et je dis, enfin je dis tout haut pour qu'on m'entende d'en haut. Monsieur Delimiel, êtes-vous là?
Ils s'arrêtent, les mercenaires, enfin les hommes armés, et à l'espèce de petit balcon juste derrière le bureau, juste là où il y a la sphère, se présente, apparaît Marcellus Delumiel en compagnie de sa femme. Vous êtes déjà revenu. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Attendez, attendez. Ne vous inquiétez pas.
Vous aviez raison quand vous me disiez qu'il ne fallait pas toujours se fier aux apparences. C'est vrai que la vérité m'a légèrement déstabilisé, mais en fin de compte, elle ne me dérange pas plus que ça. C'est pour ça que je suis revenu aussi rapidement.
Il regarde sa femme, elle lui murmure quelque chose à l'oreille. Il lui répond également, mais vous n'entendez pas ce qu'ils se disent. Seigneur de Lumiel, qu'est-ce qu'on fait? Invitez nos amis à avancer. Approchez-vous du bureau. Et il se met à descendre. Sa femme reste en haut, à observer, et
Et
lui descend.
Je regarde, je dis, vous m'autorisez à baisser les mains?
Allez-y. D'accord. Il descend et il va s'installer à son bureau, sur son siège, face à vous. Il vous invite à avancer, à vous rapprocher de lui. Okay. Sa femme est derrière lui, en hauteur, sur le petit balcon, près de la sphère.
Je la regarde un instant et je lui fais un petit sourire avant de reporter mon attention sur Monsieur de Lumiel.
Qu'est-ce que tu fais, toi, Balian ?
Je suis en fait Gauvin et si en fait on nous propose de nous asseoir, je laisse Gauvin s'asseoir, moi je reste debout.
Il n'y a pas de siège. Les mercenaires. Il n'y a pas de siège.
Je me positionne pour bien voir les mercenaires.
D'accord.
Mais je dévoile toujours pas ce qu'il y a sous le tissu, mais voilà. Je suis sur la défensive.
Très bien. Ouais. Il fait un petit signe à ses hommes, aux hommes présents, et ceux-ci vont se poster derrière vous, devant la porte. Mais leurs armes sont au fourreau.
Je me positionne en fait de trois quarts pour pouvoir et voir ce que fait Monsieur de Lumiel et ce que font.
Très bien. Marcellus de Lumiel pose ses mains sur son bureau, vous regarde, il a l'air calme, maîtrisé. Eh bien, dites-moi, que puis-je faire pour vous ?
Eh bien, comme je vous disais, j'étais surpris par la vérité. À tout vous dire, un marchand d'Almérien est venu à notre rencontre. Pour nous réclamer la dite marchandise. On a compris à ce moment-là que le commanditaire à qui Bernier devait livrer cette marchandise était ce fameux marchand d'Almérien. Mais comme je vous le dis, la vérité ne m'a pas spécialement déplu. Vous avoir fourni la marchandise à vous plutôt qu'à lui, c'est mal pour un bien. C'est un mal parce que je me suis fait avoir, je me suis trompé, je me suis fourvoyé. Mais ce ne sont que mes propres déductions qui m'ont mené à cette erreur. C'est un bien parce que du coup, ce n'est pas la Dalmérie qui pourra profiter de cette marchandise. Et, le pays de l'Andre et vos recherches. Et ça en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
D'accord.
Nous n'avons rien dit à ce marchand d'Almérien. Nous avons dit que nous avons fourni la marchandise à Bernier et que celui-ci avait disparu. Donc, de notre côté, nous sommes plutôt propres. Ce qui fait que nous lui avons proposé de nous laisser une seconde chance, de nous refournir de la marchandise, Balian ayant fait la première partie du transport et nous la seconde. Et pouvoir à l'avenir lui livrer cette fois-ci un nouveau transport. Ce qui veut dire qu'éventuellement, vous pourriez encore en profiter une nouvelle fois. Si cela vous intéresse.
Qu'est-ce que vous y gagnez exactement ?
Que j'y gagne, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, je recherche le joueur de flûte, je recherche mon père, mon frère. Si vous me donnez des informations à son sujet, si vous m'aidez à le retrouver, eh bien moi je ferai en sorte de vous aider à récupérer cette marchandise. Je pourrais même dire que je pourrais peut-être même faire un peu plus. Plutôt que de vous laisser avoir toute la marchandise d'un coup. Et dans ce cas-là, je me ferai découvrir. Et ce Dalmérien ne me fera plus jamais confiance. Pourquoi ne pourrions-nous pas plutôt vous livrer une partie seulement de la marchandise ? Et peut-être que avec mes talents d'apothicaire, je pourrais fausser ce qu'il y a à l'intérieur.
Qu'est-ce qui vous fait dire que vous pouvez utiliser des talents d'apothicaire pour cette marchandise ?
Parce que j'ai entendu un bruit de fiole quand quand l'une des caisses a légèrement été choquée par le prévôt. Qui me laisse dire que ça doit être des potions ou quelque chose de ce genre. Et peut-être qu'avec un exemplaire, je serais capable d'en faire un simulacre suffisamment convaincant pour lui laisser penser qu'il a une marchandise complète. Si on fait ça, peut-être que plutôt que de voler une nouvelle fois la marchandise, peut-être que nous pourrions ponctionner régulièrement dans les différents transports. Ça vous assure un apport régulier. Ça nous assure un paiement régulier de notre part. Ça m'assure des informations de votre part. En plus, ça évite tout bain de sang de la part de vos hommes. Ils ont pu le faire en essayant de nous attaquer sur le fleuve, enfin, même si c'était des pirates, ou dans la cage de Bernier où ils ont laissé les corps visibles et la statuette de la Gorgone bien en évidence. On a tout nettoyé d'ailleurs, hein. On a enterré les corps, on a dissimulé la statuette de sorte que personne ne puisse remonter jusqu'au culte de la Gorgone.
Je garde les mercenaires, je sais pas combien vous les payez, mais je les trouve pas très compétents.
Il te regarde, il répond pas à ça.
Oui, non, mais c'était pas pour lui, hein. C'était pour les mercenaires. C'est pas une critique pour lui, il l'a bien compris.
Il y a un des mercenaires qui dit « on a fait le boulot quand pour lequel on était payé ».
Quand Balian dit ça, moi de toute façon je lève la main pour lui, juste pour lui dire de ne pas envenimer les choses.
Juste une chose, en quoi vous pensez qu'on va réellement... vous allez pouvoir m'approvisionner régulièrement si vous promettez une livraison et qu'à chaque fois elle se fait intercepter.
Justement, si elle se fait intercepter à chaque fois, ils ne nous feront plus confiance. Mais si jamais nous en faussons une partie...
J'ai compris. Bon, vous êtes encore plus pertinent, encore plus malin que ce que je pensais. Je ne vous mentais pas quand je vous disais que nous reparlerions sans doute. Et que je l'espérais. Ma femme également, il se tourne, il lève un peu la tête, et elle hoche la tête. Elle m'a à nouveau parlé de vous, Gauvin. Je suis content que vous m'ayez rendu visite. Je suis en effet certain que je peux vous aider. Peut-être de manière plus indirecte que je ne le souhaiterais, mais je pense pouvoir vous aider. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Vous avez bien fait de venir, si vous êtes sincère, en revanche.
Moi, je ne suis un peu plus sincère. Je vous dis, pour moi, ma plus grande priorité, c'est de retrouver mon père et mon frère.
Et vous, Balian, vous m'aviez parlé de retrouver votre fille. Et encore une fois, je vous ai dit que je le comprenais parfaitement, et c'est toujours vrai. Et vous avez dit que le joueur de flûte avait enlevé votre fille.
C'est ce qui s'est passé. Enfin, disons que il a disparu en même temps que les enfants. Ce qui est quand même, en fait, assez... On peut mettre, en fait, en lien les choses.
Quelle est votre priorité, Balian? Est-ce vous venger du joueur de flûte? Ou est-ce retrouver votre fille?
Si je retrouve ma fille en vie, on peut dire que le joueur de flûte, ça ira à peu près. Disons que j'aurai cuit temps à rattraper. Si par contre ma fille n'est plus en vie, par contre là, je suis désolé de vous le dire, mais il faudra que je passe ma colère.
Mais... Léon, je te l'ai déjà dit. Nous sommes revenus en vie. Je suis sûr que mon frère est également en vie. Ma fille le sera aussi. T'inquiète pas à ce sujet.
Je l'espère.
C'est ce que je pensais. Mais ce que je pense au sujet de la fille de Balian, à savoir qu'elle soit en vie, ne peut être vrai que si ce que vous dites, Gauvin, est vrai aussi à votre sujet. Qu'est-ce qui me prouve que votre histoire, aussi étrange soit-elle, est réelle? Qu'est-ce qui me prouve que vous avez été enlevé il y a si longtemps, plus de 30 ans, et que ce soit réellement...
Pas été enlevé. Je n'ai pas été enlevé. Comme je vous l'ai dit, c'était un tribut de la part de mon village. De la même manière que votre village passait un accord avec le joueur de flûte.
Très bien, j'ai compris.
Et je me souviens bien.
Mais qu'est-ce qui me prouve que cette histoire est vraie ?
Eh bien, laissez-moi vous montrer. Et du coup, je soulève ma... Enfin, j'ouvre ma chemise. Je me tourne pour lui montrer ma clavicule et la marque que j'ai sur la clavicule.
Là, la voix de Madame de Polignac résonne. Elle dit « Je savais que vous étiez quelqu'un d'intéressant, Gauvin. Je l'ai vu tout de suite. » Incroyable. Là, c'est Marcellus qui parle. Ça ne peut pas être une coïncidence que vous portiez ce signe. Je pense que le destin vous a amené jusqu'à nous. Vous voyez
ce que je vous ai dit également.
Je suis d'accord avec Gauvin, Balian. Si votre fille a bien été emmenée par le joueur de flûte, si Gauvin est revenu, alors votre fille est sans doute en vie, quelque part. Probablement servant d'une manière ou d'une autre. La Gorgone, comme vous, l'avez sans doute servi, Gauvin. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine, si vous portez sa marque. Vous n'êtes donc pas anodin.
Je fais un petit signe de tête. Ouais.
Vous n'êtes donc pas anodin. Il était écrit que nous devrions travailler ensemble. Et moi, je pense que la clé pour retrouver votre frère, qui peut-être lui aussi, sans doute, est en vie, votre fille, est de servir également la Gorgone, de lui montrer que vous lui êtes loyal. Vous savez, ce que nous vous avons montré, cet oiseau qui s'est envolé, cet oiseau mécanique qui s'est envolé grâce à nos prières, car ce sont des prières plus que des incantations. C'est un cadeau que nous générons pour la Gorgone et qu'elle nous laisse en partie. C'est en lui payant des tributs, c'est en lui faisant honneur, c'est en la révérant, lui montrant du respect, que nous pouvons en tirer une substance. Et c'est en faisant de même que peut-être elle-même vous récompensera. Vous savez, les prêtres de Radiance n'ont de cesse de dire que si vous priez la Grande Cité, vous la nourrirez par vos prières et rendrez ainsi les dieux qui vous aideront puissants. Mais vous êtes-ils réellement ? Les récompenses de la Gorgone sont bel et bien tangibles, sur du court terme. C'est ça, la réalité. Et ces récompenses ne servent pas que nos intérêts personnels. Ils servent l'avenir. Regardez ce que nous sommes capables de faire. Ce que nous allons être capables de faire. Cet essor technologique qui est à portée de main, qui pourra mettre sur un pied d'égalité toutes les strates de la société, faire s'élever le peuple grâce à ces technologies. C'est le genre de choses que nous pouvons accomplir grâce à notre loyauté envers la Gorgone. Pensez-y. C'est peut-être là que vous trouverez les réponses. Voyez-vous, le problème dans nos recherches, c'est que cette énergie que vous avez vue, cette énergie pourpre, nous l'invoquons par nos prières, les diriger droit vers la Gorgone, en tout cas nous le pensons, et nous sommes capables d'en tirer un substrat, de la garder quelques instants. Mais il y en a trop peu et nous ne savons pas la contenir. Mais dans ces caisses qui ont été livrées, c'est différent. Suivez-moi. Il se lève et il commence à gravir les escaliers.
Je me rhabille et je le suis.
Balian ?
Oui, je suis le mouvement.
Je prends quelques pas juste d'avance pour rejoindre Marcellus de Lumiel à ce moment-là. Et je lui dis discrètement, je sais que vous pouvez penser que Balian est un élément dangereux et incontrôlable, mais ne vous inquiétez pas, je le contrôle parfaitement. Il m'aide à retrouver le joueur de flûte et mon frère, et lorsqu'il ne sera plus utile, je saurai me débarrasser du danger.
Il te regarde pendant 2 secondes, il répond pas et il continue son chemin. Et vous voyez à l'étage que toutes les caisses sont là. Je ne vous ai pas encore tout dit, mais à partir du moment où j'ouvrirai ces caisses, je considérerai que nous avons un accord. Est-ce que je peux vous compter parmi mes alliés? Gauvin, Balian?
Je me touche le cœur faussement peiné en disant vous ne me considérez pas comme un allié déjà à ce moment-là?
Il regarde Balian, attendant une réponse.
Je pose en fait le truc qui me gêne, je retire en fait le gant, enfin la protection que j'avais sur ma main, et je lui montre le tatouage de la Gorgone.
Oh, joli. Ça, c'est bien joué.
Est-ce que cette réponse vous convient? Et
Vous
je remets le gant.
m'étonnez, Balian. Je pensais que vous perceviez le joueur de flûte comme un ennemi.
Je sais cacher mon jeu aussi, comme vous l'avez fait avec moi.
Je vois qu'il sait pas trop quoi en faire. Il plisse les yeux, il regarde Gauvin. Il attend que.
Je lui dis, je lui réponds, quand on se rend compte que l'ennemi est beaucoup plus puissant que nous, il ne reste que 2 choses à faire, mourir ou le rejoindre.
Vous savez, la mort n'est pas toujours l'autre condition. Oui, parfois, des sacrifices sont nécessaires, mais vous n'êtes pas chez des fous, chez des meurtriers fous. Tout a un objectif. Bien, en tout cas, je dois vous montrer quelque chose. Il y a une des caisses qui était déjà ouverte, puisqu'il l'avait contrôlée devant vous. Il en ouvre le couvercle. À l'intérieur, effectivement, des fioles transparentes. À l'intérieur de ces fioles, des liquides. Des liquides à l'intérieur desquels il y a comme une poudre qui flotte à l'intérieur. Et ces liquides sont de 2 couleurs différentes. Il y en a de 2 types. Certains liquides sont couleur or, de par la poudre qui flotte à l'intérieur. Les autres sont de couleur pourpre. Balian, voici ce que vous avez acheminé depuis Contrebois. Voici ce qui a tant de valeur. Vraisemblablement pour beaucoup. Je suis d'ailleurs la Dalmérie visiblement à connaissance de cela. Il se trouve que ces concoctions, de ce que j'en sais, sont constituées de la même énergie que vous avez vu que nous avons réussi à invoquer et qui a fait voler cet oiseau mécanique.
D'accord.
Là, moi, j'écarquille un peu les yeux et je dis, mais attendez, il y en a combien de caisses?
5.
Enfin, je me rends compte à ce moment-là, moi, personnellement, de l'effort que ça m'a pris pour qu'on invoque ne serait-ce qu'une once de cette énergie et le nombre de fioles qu'il y a. Je dis, mais. Et comment la Pharèse est capable de produire autant de cette énergie?
C'est bien la question que je me pose. Je sais que Ces caisses proviennent de contrebois, comme vous d'ailleurs, Balian, vous le savez.
En effet.
Je sais qu'elles sont, que ces fioles sont faites de cette énergie, en tout cas que toute cette poudre que vous voyez, c'est une partie de cette énergie, je n'en connais pas tous les détails évidemment, mais qui est contenue, maintenue. Alors que nous ne pouvons pas la contenir, nous, en grande quantité. Ceux qui, de nos alliés, qui honorent la Gorgone avec nous, ne savent pas non plus comment c'est possible. Alors évidemment, cette marchandise m'intéresse. De par les expériences que vous avez vues, vous comprenez leur valeur. Elle pourrait nous permettre une meilleure compréhension encore de ces nouvelles inventions qui sont à portée de main. Et donc l'intérêt est double. Servir cette science qui va nous apporter tant, qui va tant apporter à la société, aux classes populaires qui pourront en bénéficier, aux classes qui travaillent, à la bourgeoisie aussi. Ce qui fera redescendre les nobles de naissance, ceux qui n'ont rien acquis, ce sera un moyen de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et également, nous aimerions comprendre. Qui d'autre est capable de faire ça? Il me semble que tous ceux appartenant au mystère de la Gorgone, mystère c'est un culte hein, au passage, ne sont pas responsables de ces fioles. C'est bien ça le problème. Il est aussi important de savoir comment elles sont faites. Il y a donc nécessairement une source. Et plutôt que d'intercepter une marchandise à chaque fois qu'elle passe, j'ai besoin de connaître la source pour en prendre possession. Et c'est là que vous pouvez intervenir, c'est là que nous pouvons nous aider mutuellement.
J'ai une question par rapport, tu sais, à la forêt qui est au-delà et les légendes qui tournent autour de la forêt.
Le bois aveugle près de Contrebois?
C'est ça. Est-ce que moi j'ai une, enfin, j'ai une petite idée des légendes qui tournent autour de ce truc-là?
Ouais.
Que j'ai... ouais.
Ça te parle. Et... c'est même pas des légendes. Hein. C'est des choses qui sont vraiment passées récemment.
Ouais.
Dans le bois aveugle, je te le fais très court. Hein. Il y a eu une menace très importante de sortie de ce qu'on appelle l'engeance. C'est une forme, une genre de forme de vie parasitique. Qui contamine le vivant, le transforme, et parfois il y a un esprit de ruche qui se crée, et ça forme des percées, et ça crée des monstruosités immondes qui en émergent, et qui veulent répandre l'engeance, en fait. Et récemment, il y a eu, il y a à peu près peut-être un an de ça, un peu plus d'un an, il y a eu vraiment ça à Contrebois. Et apparemment, cette engeance a été contenue. Le problème n'est pour l'instant plus là. Et tu as eu vent d'une arme qui a permis de la vaincre. Et ça te parle parce que tu as entendu parler de poudre d'or.
D'accord.
Et ça évoque l'un des types de fioles que tu contemples dans la caisse.
C'est pour ça, tu vois, avant d'intervenir, je voulais savoir exactement ce que j'avais comme,
ouais.
Moi, comme connaissance là-dessus. Donc, effectivement, je vais intervenir, en fait, je vais le laisser terminer. Puis...
pour l'instant, il fait une pause. Si tu veux intervenir, ouais. Tu peux y aller.
Je suppose que vous êtes au courant de ce qui s'est passé, en fait, dans les bois plus au sud de Contrebois.
J'ai su qu'il s'était passé quelque chose, en effet, mais pourquoi est-ce que vous me dites ça?
Parce que j'ai cru comprendre que l'arme qui a permis de contenir les engeances, en fait... il y avait une histoire de poudre dorée. Donc j'y vois un lien.
Ah.
que
Alors,
c'est
c'est
un lien
ça.
aussi avec les engeances, ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas dans la confidence de ce qui s'est passé.
Mais ce que vous me dites expliquerait bien des choses alors. Si une arme a été trouvée pour combattre les émergences de l'engeance, cela expliquerait pourquoi la Dalmérie est intéressée. Je suis juste surpris que la Pharès voudrait vendre ça à son pire ennemi. C'est étrange, ce genre d'arme, on en garde le monopole quand on l'a.
Je suis d'accord avec vous.
Ça reste de la contrebande, c'est-à-dire c'est pas la Pharès qui l'a vendu, c'est quelqu'un qui a trouvé intéressant de le vendre.
Oui, mais c'est pareil. Une arme aussi dangereuse, on en compte le stock et on le surveille régulièrement. Faire sortir 5 caisses comme ça.
C'est-à-dire qu'on sait pas exactement d'où ça vient. Donc du coup, même si imaginons que la production que ce genre de choses soit plus importante que ce que l'on pense, mais peut-être que les caisses sont tout bêtement, en fait, n'ont peut-être jamais été enregistrées dans les stocks. C'est une possibilité. Quand on maîtrise un petit peu les principes de la contrebande, il peut y avoir des erreurs dans les stocks.
En tout cas, vous êtes convoyeur sur le fleuve, vous le maîtrisez.
Certes.
Bovin, vous êtes a priori roué à cela. Vous deviez transporter la marchandise depuis Hamelin, et vous, Gauvin, vous l'avez apporté depuis Contrebois. Par conséquent, vous avez la maîtrise du trajet. J'aimerais que. Oui.
C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est moi qui l'ai amené de Contrebois et Gauvin a fait
C'est ce que j'ai dit.
avec.
Ce que j'ai dit.
Il m'a
C'est
semblé
deux
que
fois
Gauvin
Gauvin.
était associé
Ah,
Contrebois.
bah j'ai dû
Voilà.
dire deux fois Gauvin alors que non, je voulais dire Balian, pardon, pour la
Il
deuxième.
n'y a pas de souci.
Et donc, vous avez la maîtrise du trajet. Vous avez sans doute un employeur direct. Mais j'aimerais que vous nous aidiez à découvrir la source. Je ne peux pas, je ne vous promets rien en échange. Je n'ai moi-même rien à vous donner. Je ne sais pas. Enfin, rien à vous donner. Si, je pourrais bien sûr vous payer. Vous pourrez même peut-être bénéficier des découvertes. Que sais-je? Nous allons travailler ensemble. Je vous vois comme des alliés et non pas comme des employés. Nous pourrons nous accaparer de cette source. Je ne sais pas où est votre fille. Je ne sais pas où est votre frère. Si le joueur de flûte les a avec lui, s'il vous les considère comme ses enfants, comme vous l'avez laissé suggérer, si la Gorgone en a besoin, je ne sais pas. En revanche, tout ce que je sais, c'est que cette énergie que nous redirigeons vers la Gorgone pour qu'elle s'en nourrisse par nos prières, par nos actions, par notre dévotion, par cette énergie que nous pouvons récupérer pour la lui transmettre. Alors, vous pouvez attirer son attention et prouver votre loyauté. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous les retrouverez. J'essaierai de vous aider comme je le peux. Vous avez eu des visions. Peut-être que nous pourrons réitérer l'expérience. Peut-être qu'avec la connaissance accrue de cette énergie, si nos expériences peuvent se faire sur des sources plus permanentes, comme ce qu'il y a dans ces caisses, peut-être que nous trouverons une solution. Je vous fais la promesse de chercher à vous aider à entrer en communication avec la Gorgone, avec les moyens que j'ai. Je ne suis qu'un simple humain. Vous voyez, je ne vous mentirai pas en vous promettant des informations que je n'ai pas. Et je vous promets que si vous êtes loyaux, si vous aidez la cause, alors vous aurez mon aide pour vos objectifs. Et je suis sûr que la Gorgone saura récompenser ceux qui l'aident. Et ce qui aide ses serviteurs.
Tant qu'à être transparent entre nous, la SPR, c'est votre société.
Alors, peut-être que finalement j'ai une information pour vous. Si ça vous intéresse, je vous en dirai plus. Mais j'ai besoin que vous me disiez que c'est d'accord et que nous pouvons nous considérer mutuellement comme des alliés et que vous allez m'aider. Et je ne vous laisserai pas partir seul, sans ressources, ne vous en faites pas.
Gauvin.
Tend la main à Marcellus de Lumiel.
Et un petit sourire qui se dessine, qui paraît sincère, c'est pas un sourire victorieux. Il regarde sa femme, qui t'adresse un sourire, fait un signe de tête, et lui tend sa main aussi et la serre. Puis il la dirige vers Balian. Balian,
Je lui serre la main.
tu lui serres, et il te pose une deuxième main sur la tienne et te dit, vous savez, je vous l'ai déjà dit. Les apparences sont parfois trompeuses. Je peux comprendre que vous voyez le joueur de flûte comme un ennemi ou que vous ayez pu douter malgré le tatouage que vous portez sur la main. Mais parfois, je le redis, les apparences sont trompeuses. Vous verrez. Vous retrouvez votre fille, j'en suis convaincu. Aussi convaincu maintenant que je sais que les enfants du joueur de flûte peuvent revenir. Votre ami ici en est la preuve. Soyez rassurés, votre fille est bien vivante. Je suis sûr qu'elle a un destin. Il te lâche la main. La SPR, Balian, est la Société du Peuple et de la République. Un chapitre du mystère de la Gorgone qui se trouve à Elegia. Ce n'est pas mon organisation, je suis à la tête du cercle des physiocrates. Ici. Mais nos intérêts convergent. Nous avons une loyauté envers la Gorgone qui a apporté beaucoup à nos deux organisations, même si elles ne se sont pas créées au même moment. La SPR est bien plus récente que le cercle des physiocrates. Mais nous travaillons ensemble. C'est par eux que j'ai eu vent de la marchandise.
C'est eux qui envisageaient de la récupérer.
Ils nous ont prévenus car nous étions plus aptes à la récupérer vu le trajet qu'elle devait faire. Se rendait en direction de Brienne. Du coup, nous avons été prévenus pour intervenir. Les moyens que nous avions étaient plus importants pour l'intercepter.
Une personne en fait a effectivement vu mon tatouage et m'a posé des questions auxquelles évidemment je n'avais aucune réponse, donc du coup la situation est devenue quelque peu tendue, si j'ose dire.
Qui avez-vous rencontré?
Un certain Oreste.
Je ne sais pas. En tout cas, je
C'est lui
préviens.
qui a évoqué la SPA.
Je ne connais pas tous leurs membres. Loin s'en faut. Ils œuvrent pour. Je pense que ils sont un peu utopiques, mais ils œuvrent pour remplacer la monarchie par une république, comme au temps de l'Empire. Une opinion assez subversive, mais je dois reconnaître que nos intérêts convergent, puisque la république est censée être plus égalitaire, ce qui rejoint, d'une certaine manière, les objectifs du mouvement physiocrate, même si les moyens employés ne sont pas les mêmes. Ils veulent une république, nous voulons une économie du peuple par la technologie. Notre existence est bien plus ancienne. La leur découle de ce qui, je dirais, des restes de la révolte de Carnandras il y a des années. Enfin. C'est avec eux que je vous mettrai en contact. Si vous me donnez le nom de votre bateau, si jamais vous allez à Elegia, vous serez contacté par eux. Ça vous fera des contacts sur place si vous avez besoin d'aide. même si je pense que les réponses se trouvent à contrebois. Mais il est bon que vous ayez des alliés aussi sur place à Elegia, ce qui est proche.
Évidemment.
J'ai besoin que vous me donniez toute la composition de votre groupe, toutes les informations dont je peux avoir besoin pour les transmettre, afin que vous soyez pris en charge si jamais vous allez à Elegia.
Ok, bah du coup je lui donne. Je dis donc que le nom du bateau c'est le Rutilon et qu'on est on est un équipage de 4.
Très bien. Esper sera votre point de contact. Je pense qu'ils me préviendront. Et le but est au moins de savoir ce qu'est la source, au moins de l'identifier avant de savoir comment nous allons mettre la main dessus. Quand comptez-vous repartir?
Très prochainement. Nous devons encore, je pense, nous débarrasser de ce maudit prévôt.
Ah, ne vous inquiétez, il lève la main. Ne vous en faites pas pour ça. Donnez-moi quelques jours, tout au plus, maximum, et ce ne sera plus un problème.
Alors nous partirons dès que nous pourrons.
Parfait.
Une dernière chose, si je puis me permettre. Ayant moi-même vécu ces visions, j'ai eu comme idée d'associer les drogues que vous utilisez pour le rituel, peut-être d'autres drogues qui nous permettraient d'atténuer, renforcer les défenses psychiques de la personne, de sorte qu'elle ne se retrouve pas aussi mal en point que moi j'ai pu l'être, ou au contraire d'exacerber ses sens de sorte à ce qu'elle puisse essayer d'aller encore plus loin dans ses visions.
Si vous pensez que ça vous aide, ça vous aidera à explorer plus ses visions. Je n'ai jamais entendu parler de visions aussi vivaces. Je pense que c'est lié à votre lien avec la Gorgone. C'est très positif. Mais
c'est très probable. Oui.
Vous n'aurez ces visions que si vous faites les prières. Ma femme vous redonnera, si vous voulez, les mots que nous utilisons pour invoquer la Gorgone, mais il vous faudra quelque chose, une effigie, quelque chose qui représente la Gorgone pour que...
J'ai toujours la statuette que vos hommes avaient laissée dans la cage de Bernier.
Alors considérez qu'elle est votre. Celle-ci a en plus emmagasiné de l'énergie due à un acte de dévotion qui n'est pas le plus civilisé, mais qui apporte un témoignage assez facile de cette loyauté. Bref, utilisez cette effigie pour vos prières. Je pense que la Gorgone sera ainsi plus prompte à vous envoyer les visions que vous souhaitez.
Très bien.
Il ne sert à rien de prier dans le vide. Il faut toujours invoquer quelqu'un.
Évidemment.
Parfait. Eh bien,
si je peux me permettre une question, en fait, qu'en est-il de la proposition que vous avez fait Gauvin de substituer certaines fioles pour continuer à pouvoir travailler avec ceux qui, enfin, le commanditaire d'origine, si j'ose dire.
Je ne sais pas comment ce sera réellement possible. Ces fioles sont caractéristiques. Pour les falsifier, sans cette énergie particulière, ce sera à vous de voir. Je n'ai pas ces connaissances nécessaires. Et je pense que la priorité est que cette énergie n'arrive plus jusqu'à son commanditaire final. C'est justement ça tout l'enjeu. Si vous avez besoin d'argent pour nourrir tout ça, je le comprends. Vous serez payé pour vos troubles, vous serez payé pour votre aide. Je veux juste que vous sachiez que vous serez plus que de simples employés. Mais bien évidemment, si vous nous aidez, vous serez payé de manière confortable. D'ailleurs, avant que vous partiez, laissez-moi rassembler un peu tout ça, mais je compte vous payer. Déjà, pour vous montrer notre bonne volonté.
Je ne peux que vous en remercier, c'est tout à votre honneur.
Donnez-moi un instant. Il va chercher dans son bureau, prend une bourse, il te l'attend. Vous pourrez vous remettre 2 points de ressources.
Ok.
La paiera au moins pour votre voyage et un petit peu pour la suite.
Effectivement. Je vous remercie encore une fois.
Par contre, c'est à vous de voir ce que vous ferez avec votre employeur. Je ne poserai pas de questions. Mais effectivement, le signal sera sans doute envoyé que la marchandise n'est pas arrivée à destination. Mais comme je vous l'ai dit, le but est que cette marchandise, ces fioles, n'arrivent que jusqu'à moi. Je ne veux pas qu'elles soient transmises ailleurs.
Je vous l'ai dit, pour le moment, nous avons fait en sorte de faire croire à tout le monde que nous avions déjà donné la marchandise à Bernier, que c'est Bernier qui l'a malheureusement perdu. Enfin, nous, ce n'était plus notre problème.
Très bien.
Donc notre employeur pourra probablement encore faire appel à nous.
C'est une bonne chose. Vous aurez besoin de toutes les ressources à votre disposition pour ce que vous allez devoir faire. Et comme je vous l'ai dit, je mettrai à votre disposition celle dont je dispose. Comptez sur moi. Bien. Je vais entreposer ces caisses dans un endroit un petit peu plus sûr. Vous voulez bien m'excuser? Vous saurez bien assez tôt quand vous êtes capable de repartir sans être troublé par le prévôt.
Bien. Je vous remercie. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Merci d'être venu et à très bientôt.
Bonne soirée.
Les mercenaires s'écartent de la porte sur un geste de Madame de Polignac qui se trouve près de la sphère. À bientôt, monsieur Fontaine. Merci pour votre visite.
Je me retourne et je fais une petite révérence en partant en marchant à reculons.
Parfait. Les mercenaires referment la porte et vous quittez la demeure de Marcellus de Lumiel. Isaac et Stanislas, vous êtes arrivés à la fosse. Je ne vous repeins pas les lieux, vous les connaissez maintenant, vous en avez l'habitude. Et vous retrouvez rapidement Paulin. Il est seul, son frère n'est pas là. Il vous fait signe de le rejoindre à sa table, un peu en hauteur de l'arène. Messieurs.
Paulin, bonsoir.
Vous allez bien?
Comme on peut faire un mardi soir.
J'espère que tu vas bien, toi, parce que tu vas devoir assurer ce soir. Je t'ai retrouvé un combat.
Ouais.
Il y a de l'argent à se faire.
Ok.
Pour l'instant, t'es le champion de l'arène, mais j'espère que tu te sens pas fatigué. Il va falloir assurer. Je veux que tu le gagnes, celui-là.
Bon, je le gagnerai, t'inquiète pas.
Bon, si t'es confiant, je veux vraiment que tu te battes comme si c'était le combat de ta vie. Il y a de l'argent là-dessus.
Ok.
À part ça, vous avez des nouvelles pour moi?
Oui.
On a fait ce qu'il fallait pour gagner la confiance des Arimeurs. Comme ça a été
c'était pas déjà fait, ça?
Non. Au contraire, c'était pas fait du tout.
Tu m'avais pas dit qu'ils avaient la marchandise, que vous leur aviez donnée? C'est une preuve de confiance.
C'était la preuve de confiance parce que nous, pendant ce temps-là, on avait la personne à aller voir. Mais pendant tout le trajet, ils nous surveillaient, ils nous ont fait des petites feintes. Et à un moment, ils se sont arrêtés pile à un endroit qui aurait été...
Attends. Arrêtez, de quoi tu parles? Ils se sont arrêtés.
Ils ont essayé de nous piéger pendant qu'on faisait le transport.
Que vous faisiez le transport, comment ça? Que vous faisiez le transport?
Bah, on avait dit qu'on gagnait leur confiance. Donc il fallait que la première, elle passe. Pour qu'on gagne leur confiance.
Ah, il me semblait pas que c'était ce qu'on avait dit, non. On avait dit qu'il fallait que tu nous dises exactement où serait la marchandise. Pour qu'on puisse la prendre.
Oui, mais le commanditaire et les arrimeurs, les deux nous surveillaient. Si à la première transaction qu'on faisait avec eux, ça sautait, on était fini. Il n'y avait plus rien qui passait.
Et alors, moi je voulais juste récupérer la marchandise. Il y a un des viseurs brunes qui débarque.
Si on la perd.
Il y a un des viseurs brunes qui débarque et qui vient parler à Paulin. Déjà. Ok, merci. Isaac, faut que tu te prépares. Je te l'ai dit. En forme. Le combat va commencer.
T'acceptes qu'on parie aussi?
Pas ce soir, mais je vous paierai une partie comme c'était convenu. Si Isaac gagne, vous aurez une partie des gains. T'inquiète pas que si Isaac gagne, vous serez récompensé.
On va tout de suite dire.
Allez. Allez, mon garçon. T'y vas. Tu pars. Okay. Bon. L'autre t'accompagne et te descend dans les genres de vestiaires dans l'arène. Bon, revenons à nos moutons. Je pense qu'on s'est pas compris. Vous aviez leur confiance dans ce que vous nous aviez dit. Ils ont la marchandise. J'avais dit l'affaire. Mon frère vous a dit. Dès que vous avez l'info de où délivrer la marchandise, vous nous prévenez pour qu'on puisse mettre la main dessus. C'est pas ce que vous avez décidé de faire, visiblement.
Non mais l'idée c'était que vous repreniez le transport pour la suite. Que vous ayez tout le temps le transport. Si vous le faites qu'une fois, c'est pas rentable, ça vaut pas le coup.
Et on l'aurait fait, on aurait pris la marchandise, on l'aurait eu et on l'aurait acheminé. Et on l'aurait refait par la suite.
Mais le commanditaire, si ça se fait attaquer, il accepterait pas que ça, surtout qu'il surveillait aussi.
Ben si, parce que le commanditaire, on lui aurait donné la marchandise.
Mais si à chaque fois, dès le début, alors qu'il a pas totalement confiance, ça se fait taper, il va se dire, ils vont tout le temps se tirer dans les pattes et c'est pas possible.
Je pense que vous vous êtes surtout foutu de ma gueule. Bon, Isaac, toi tu arrives sur l'arène. T'es torse nu, t'arrives sur l'arène, seul tu es acclamé. Allez Isaac! Isaac!
Très bien. J'attends que mon adversaire entre dans.
Pour l'instant, il n'y a personne. Je pense que t'as pris tes aises. Et je pense que tu t'es foutu de notre gueule. En plus...
Si vraiment t'étais foutu de ta gueule, on s'est fracassé.
Non. Vous vous êtes foutu de ma gueule. Je vous ai fait confiance, je me suis porté garant auprès de mon frère. Et vous nous avez pas prévenu. Était en train de me dire que la marchandise est pas là. Mais... Je vais te dire un truc. Je savais déjà que vous aviez refourgué la marchandise. J'étais au courant. J'ai su que la marchandise était arrivée à bon port. En tout cas, en ce qui concerne mon commanditaire. Celui des griffes duquel je vous ai déjà sauvé une première fois. Sauf que c'est pas moi qui l'ai livré. C'est pas moi, c'est pas mon frère. Et ça me pose problème. Tu comprends ce que je veux dire? Ça me pose problème qu'on se foute de ma gueule, surtout quand je me suis porté garant. Je pensais que t'étais différent de ton père. Résultat, vous faites vos petites affaires et vous nous la mettez en travers. Alors qu'on avait bien dit, quand on s'est serré la louche, que la marchandise, c'était pour nous. Et il n'y avait pas de ces discussions à la con de faut gagner leur confiance. Vous étiez déjà dedans. C'est pour ça que je vous ai proposé de faire affaire et que mon frère vous a proposé. Parce que vous étiez déjà chez les Arrimeurs. Donc tu t'es foutu de ma gueule. Il y a toujours personne dans l'arène, Isaac.
Je fais signe. Qu'est-ce qui se passe en direction de Paulin ou des gars qui étaient au niveau de, des vestiaires.
Au niveau des vestiaires, il se passe rien. Il y a Paulin qui se lève, qui s'approche de la rambarde et qui te dit « Isaac, mon garçon, comme je te l'ai dit, le combat de ta vie. » Et il se recule. Et il retourne s'asseoir. Et là, Isaac, tu vois non pas un, mais deux gars qui rentrent dans l'arène.
Okay.
Et il y a un détail, donc la porte se referme derrière eux. Et il y a un détail qui apparaît. C'est qu'ils sont chacun armés d'une dague.
Ok.
Et toi, t'as rien.
Très bien.
Paulin, si t'es au courant que la marchandise est arrivée à bon port et donc qu'on s'est fait enfler là-dessus, t'es au courant que maintenant on bosse pour ton commanditaire aussi?
J'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Dans ce métier-là, si tu te fais pas respecter, on te la met en travers. Et même quand tu essaies de te faire respecter, on te la met en travers, visiblement. Je passe pour un con auprès de mon frère, on s'est serré la main. Tu m'as niqué. Donc je vais t'expliquer ce qui va se passer maintenant. Si Isaac s'en sort, s'il survit, s'il gagne, vous pouvez vous barrer. Mais il y a intérêt que la prochaine fois que vous remettiez les pieds à Brienne-les-Flots, vous vous arrangiez pour qu'on récupère quelque chose. Parce que je vous lâcherai pas. Maintenant, c'est pas sûr qu'ils s'en sortent. Alors, je vais te donner un pouvoir. Tu peux arrêter le combat sur demande à n'importe quel moment. Et tout s'arrête. Et vous pouvez repartir après. Mais si tu fais ça, j'envoie mes mecs éventrer ton petit copain chez Bernier qui te sert de point de contact pour les Arrimeurs. Est-ce qu'on est clair?
On est clair.
Parfait. Il lève le bras et les deux gars commencent à s'approcher de toi, Isaac. Que fais-tu? Okay.
Je tourne dans la même direction, dans la direction inverse sur laquelle il sans doute s'approche vers moi.
Ouais.
J'attaquerai pas en premier, j'attendrai qu'il y en ait un qui se rapproche pour m'attaquer.
Ils y arrivent à deux. Ils se dirigent tous les deux vers toi.
Ok.
De front. En s'approchant, et quand il voit qu'il recule, il s'approche également. Pour t'adosser au mur, en tout cas. Tu n'y es pas encore, mais c'est leur plan, visiblement.
Ok. J'évite de me bloquer le chemin contre un mur, mais je vais essayer... Si je vois qu'ils essayent pas de m'attaquer,
oh, ils vont y aller.
Quand je suis bloqué, j'essaye d'esquiver un des deux coups.
Mm-hmm.
Parce que je peux pas forcément esquiver les deux.
Est-ce que tu veux attaquer ou est-ce que tu veux te défendre, grosso modo?
Je veux me défendre.
Pour l'instant, tu veux pas infliger de dégâts, rien du tout. Ok. Donc on peut considérer que tu te mets en position de défense, donc.
Oui.
Ok. Tu recules pas, tu te mets en défense, ils te foncent dessus. Sous les acclamations, certains semblent outrés aussi, ça gueule dans tous les sens, mais c'est ton nom qui résonne principalement. Ils te foncent dessus, tu vas essayer d'esquiver les coups. Comment ça se passe? Ils ont tous une dague, ça leur donne donc un plus 1. Toi, t'as pas de bonus d'armes, t'as rien du tout. Il y en a un qui a 4 en combat de base, donc ça lui fait 5. L'autre 6, ça lui fait 7. Sauf que, ils sont 2. Donc, ça leur donne plus 2 de difficulté à tous les deux parce qu'ils sont 2. D'accord? Donc ça veut dire que l'un des adversaires est à 7 au total de difficulté et l'autre à 9. Comme tu es en défense, tu auras plus 2 à ton test de combat. Sans oublier ta robustesse, évidemment. Donc tu me fais un test de combat avec plus 2 pour la robustesse et plus 2 pour le fait que tu sois en défense.
D'accord. 12.
Ok. Dis-moi comment tu fais pour éviter et esquiver leurs attaques, mais tu ne peux pas les toucher, tu étais en défense. Ils essaient de te poignarder. Dans les flancs.
J'essaye dans les flancs. Je recule au dernier moment et j'arrive à me déplacer sur peut-être le côté qui tient la lame d'un des deux attaquants.
Ça marche. Ils ont essayé de te poignarder, mais pour un gros gaillard, t'es plutôt leste. Pour l'instant, tu t'es positionné pour éviter leurs attaques. Comme ils voient que leur technique fonctionne pas, ils te chargent de front, les deux, avec leur dague vers l'avant. Comment tu décides de procéder ?
Je vais essayer de... d'attraper, si je peux, le bras... Ouais, mais non, ils sont en train de charger. Il y a du sable par terre ou pas? Ou c'est vrai, c'est de la terre battue?
Bah, c'est de la terre battue, mais tu peux envoyer quelque chose, si tu veux.
Ouais, bah, j'aimerais saisir quelque chose par terre et essayer de le lancer.
Ça marche.
De le lancer pour essayer de... Je sais pas si je peux avoir les deux ou au moins un, ça serait bien, pour essayer d'en dérouter un.
D'accord.
Si ça le surprend,
ou si
il essaye de se défendre.
Bonne idée. Tu vas me faire un test d'adresse. Adresse et filouterie. Difficulté 6.
Oui.
Ah.
J'ai de chance.
Oui, t'as encore des points de chance si tu veux, mais c'est pas obligé. Mais
ouais.
Si tu ne leur lances pas, c'est toi qui auras un désavantage sur cette prochaine passe d'armes.
Alors que t'es déjà désavantagé de base.
Ouais.
Je te préviens.
On va un jet de chance pour relancer.
Vas-y. Dépense un point de chance.
Eh ben, 5.
C'est raté.
Oui, mais au moins c'est pas 1, c'est déjà ça.
Par conséquent, tu te baisses pour prendre du sable. Malheureusement, tu te rends compte qu'ils vont être trop rapides, donc tu te relèves. Mais ça te permet pas d'être dans une bonne position pour les recevoir. Qu'est-ce que tu tentes ?
Je tente de... Ouais, non, mais du coup, je tente de d'en encaisser un, mais sans encaisser l'autre, je sais pas si c'est possible.
Est-ce que t'es dans l'attaque, là ?
J'essaye de me défendre, de parce que je pense pas que je puisse esquiver les deux à ce point-là, vu qu'ils sont en plein de charge et que je me suis loupé. Donc,
ce que tu peux faire, c'est tenter d'esquiver les deux en attaquant. C'est juste que si tu te mets en défense complète, tu pourras encore pas infliger de dégâts. C'est tout.
Oui. Bon, en fait, dans mon objectif au final dans le combat, ce serait un moment de choper une des dagues.
Ouais.
Mais faut que voilà.
Là, ça va être compliqué. Je te le dis, ça risque d'être trop difficile vu la situation de déséquilibre dans laquelle tu es pour cette fois.
Ouais.
Mais faut me le dire si c'est ton objectif à un moment. Oui. Là, ça sera vraiment dur.
J'essaie d'esquiver du coup du mieux que je peux leur attaque du coup en défense.
Défense totale ? Donc encore pas, tu infligeras encore pas de dégâts.
Si je peux faire tomber l'un d'eux, si je peux esquiver en faisant un croche-patte sur l'un des deux.
Une attaque, même si tu attaques, ça sous-entend que tu peux quand même les esquiver. C'est juste que la difficulté est plus importante que quand t'es en défense totale, c'est tout.
Ouais, bah j'essaye de me mettre sur le... Il charge vers moi. Ouais, bah, je vais essayer d'en faire tomber un qui est en train de charger vers moi en lui saisissant peut-être le bras et en me plaçant derrière lui pour le faire tomber, mais je suis pas sûr que ça passera.
Ok. On va tenter. Eh ben, tu vas me faire un test donc de combat. Cette fois, il y a deux difficultés. Hein. Il y a 9 et 7, les deux. Un pour chaque bonhomme. Mais tu as un désavantage. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un dé de 10 en plus. Et parmi tous les dés que tu lances, tu gardes que le deuxième meilleur.
Ok. Ok. Un désavantage, très bien. Et j'ai ma robustesse. J'ai fait 9.
9.
2.
Non. J'ai fait 9 le deuxième meilleur.
Ouais, 9. Parfait. Ça veut dire que tu gagnes la passe d'armes contre les deux. Ça, c'est important de le savoir. Donc, ça sous-entend que tu vas réussir ce que tu voulais faire. T'en évites un. Et tu peux déséquilibrer l'autre. Si tu veux.
Très bien. Très bien. Ben, ouais, j'aimerais saisir le bras de peut-être celui qui est le plus. Qui était le plus. Que je pouvais mieux toucher.
Ouais.
Et lui saisir le bras et essayer de lui faire lâcher son arme.
Ça non, je t'avais dit que c'était une difficulté de plus, tu l'aurais pas réussi. Tu l'aurais pas. Mais tu peux faire ce que tu m'avais dit au départ, tu peux le déséquilibrer.
Oui.
C'est ça.
Ok. Oui. Bah, du coup, je...
Tu évites l'autre. Tu lui tournes autour comme tu avais fait, comme tu m'avais décrit, tout simplement. Tu lui prends le bras, ça le déséquilibre, tu vas avec son élan, et hop, tu le projettes par terre. Il roule et il se relève, mais il y a un petit espace entre les deux. Entre les deux combattants. Ils sont plus tout à fait au corps à corps. Lui, il est en train de se relever. Qu'est-ce que tu fais? L'autre continue sa course vers toi.
D'accord. Bah, du coup, j'essaye de... J'essaye de charger celui qui vient de se le relever, du coup, pour pas qu'il reprenne ses appuis. Pour pas qu'il reprenne ses appuis.
Tu peux.
Et,
tu peux.
En essayant de lui saisir son arme. Toujours.
Ah, tu veux lui prendre son arme cette fois. Lui, tu veux lui prendre son arme.
Ouais, okay. Je cours vers celui qui est en train de se relever.
Okay.
Il doit pas être trop concentré sur forcément son arme et essaye plutôt de
tout
se
à relever. Fait.
Donc j'essaye de charger sur lui.
Parfait.
En essayant de lui agripper l'arme qui tient dans la main.
Tu as l'autre qui continue derrière toi malgré tout. Donc. Ça sera quand même pris en compte. Donc tu vas me refaire un test de combat. Les difficultés, c'est toujours 7 et 9. 9 pour celui qui est par terre. Sauf que, effectivement, tu réussiras à lui prendre la dague si tu réussis contre lui, contre celui qui est par terre. S'il n'avait pas été par terre, la difficulté aurait été encore plus importante.
Ok. J'ai toujours le désavantage ?
Non.
Ok. Ok. 9 du coup.
Parfait. T'es plus rapide que celui qui était encore derrière. Tu fonces, tu tords le poignet de celui qui est par terre. Il est surpris, il laisse échapper un grognement. Et tu lui prends la dague. L'autre, avec sa dague, s'arrête devant toi. Celui qui n'a plus de dague recule un petit peu et commence à essayer de se positionner derrière toi, mais très prudemment. Mais il attend. Comment ?
Est-ce que je peux intervenir en disant quelque chose ? J'essaie de les démoraliser en disant tout fort, maintenant qu'il a une arme, vous êtes foutus.
Avec les gueulements, ils t'entendent pas.
Même s'il y a besoin, je le gueule.
Ouais, bon. Ça gueule de partout, ils sont concentrés, ils n'ont pas vraiment le temps de se concentrer sur tous les gueulements qu'il y a partout, honnêtement.
Ok.
Bon. Le gars avec sa dague te charge, l'autre semble attendre derrière.
Très bien. Je tente d'affronter la personne qui me charge du coup avec sa dague.
Ça marche.
J'essaye de le planter. J'essaye de
l'accueillir
en faire sa charge en le plantant.
Oui, très bien. Donc tu vas faire donc un jet de combat, d'une difficulté de 5, sachant que maintenant, en plus du reste, tu as un plus 1 parce que tu es armé d'une dague.
Ah oui. 10.
10.
10.
Ok. Tu vas lancer un des 10 et tu vas ajouter 5 qui est la marge de réussite. Tu peux le tuer si tu veux. Tu me décris comment tu le fais.
Il charge sur moi. Je fais un pas de côté pour pas que me prendre son couteau et je poignarde dans le cou au niveau de la carotide. Et
voilà. Ça marche. Il y a un flot de sang qui se met à gicler de sa gorge. Et tu sens les acclamations des gens qui scandent. Oh, galvanisés par l'odeur du sang et la vue du sang. Mais à ce moment-là, tu sens un poids sur ton dos. Et deux bras qui se resserrent autour de ta gorge. Ainsi que deux pieds qui se resserrent autour de tes hanches. Et tu te sens tomber en arrière. Tu te sens déséquilibré vers l'arrière. Ça s'arrête à ce moment-là. Que fais-tu ?
Je recule, je cours en arrière pour le claquer contre une des parois de la.
Ok.
De l'arène.
Fais-moi un test d'adresse et guerre contre difficulté 8. Pas de bonus avec la dague. Juste adresse et guerre. C'est raté. Tu tombes en arrière.
Okay.
Tu sens un ouf, parce que tu tombes sur le gars qui est derrière toi quand même.
Bah oui.
Néanmoins, tu sens que ça se resserre autour de ta gorge.
Ok.
Lance-moi un des 10 plus 1 s'il te plaît. Tu me lances un des 10 plus 1 contre toi.
3. 4, pardon.
4. Tu sens que t'as le souffle court à cause du fait que ça t'en serre. Tu prends 2 points de fatigue temporaire.
Ok.
Et à combien au total en fatigue ?
Je suis à 3.
D'accord. Que fais-tu ? Tu sens qu'il est fermement enserré autour de toi. Il
ouais,
est sous toi.
J'essaye d'agripper ses mains qui sont autour de ma gorge et j'essaye de l'écarter.
Du coup, tu lâches ta dague.
Je lâche ma dague, mais loin de moi.
Ça marche. Tu lances la dague et tu commences à essayer d'écarter ses bras. Fais-moi un test de robustesse et guerre. Difficulté 6. Mais avec un désavantage.
Petite question.
Ouais.
Isaac, il avait pas un trait pour lui baisser les dégâts qu'il prenait ?
Ah si. Oui, j'ai pris qu'un seul point
donc
tout à l'heure. C'est vrai, j'ai pris
du
un
coup,
seul
ouais,
point,
ouais,
je suis à 2.
T'as raison.
Merci de me le rappeler. Donc, 6.
Ok. Tu te libères de l'étreinte, mais t'es toujours dos sur lui. T'as juste écarté ses bras. Qu'est-ce que tu fais ?
J'ai écarté ses bras, avec mes jambes, j'essaye de pousser avec mes jambes pour qu'il se frotte à terre et de ramener, de se diriger vers une des parois.
J'ai pas compris.
J'essaye de pousser pour.
Toi, t'es dos sur lui, hein. T'es dos sur lui là.
Oui, je suis dos sur lui. Du coup, j'essaye de
le faire gratter sur. ça, de faire froid. Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
Avec
d'accord.
J'essaye de pousser pour qu'on arrive jusqu'à une paroi.
Et ça marche. Ok, tu vas me faire un test. Lui, il essaye de te mettre les doigts dans les yeux. Fais-moi un test d'adresse. Difficulté 6 avec un désavantage encore. Adresse et guerre.
B1.
Aïe, tu me fais
un jet de fortune, peut-être plus de.
Non, je vais le prendre, celui-là.
Ok.
Il me reste un point de chance, je vais le prendre celui-là.
Tu lances un des 10 plus 5 contre toi. Après, c'est des dégâts sans armes, hein, donc tu vas pas te retrouver born comme ça. Hein.
14.
Ouh là 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 là, 14.
Oui, là. Donc, ouais, non, par contre, ouais. Là, les points de chance là pour les dégâts, c'est que pour enlever d'un niveau, ça, non ?
Bah, tu peux faire un point de chance pour un niveau, effectivement.
Ouais, mais non, tu peux pas changer grand chose.
Ok. Dans ce cas, il te met les doigts dans les yeux, ça te fait ultra mal. Ah, tu laisses échapper un râle, ça se met même sans doute, tu penses même à saigner. Tu prends 4 points de fatigue temporaire. Donc 3.
3.
Avec ton
okay,
atout.
Donc je suis à 5. Ok. Il est dans mon dos.
T'as commencé à le traîner par contre. T'as commencé à le traîner. Mais pour l'instant, ça ne l'a pas empêché de te mettre les doigts dans les yeux. Et il continue à appuyer.
Ok. Est-ce que y a moyen d'essayer de me tourner face à lui ?
Face à lui, peut-être de rouler pour sortir de son dos et te retrouver à côté.
Il avait les jambes autour de moi, non ?
Ouais, il a les jambes autour de toi. Ouais. Et que les bras que t'as enlevés.
Ouais.
Tu les as plus autour de ta gorge. Tu peux te tenter de te libérer, mais dans les deux cas, de toute façon, il y a ses jambes, donc il va falloir résister.
Ouais, ok.
Bah, c'est logique, hein.
Oui. Donc, ce que je voulais voir, c'était que comme il a les jambes autour de moi, je peux quand même peut-être tourner sur moi-même.
Non, justement, il sert. Enfin, ouais. En tout cas, lui, il essaie de t'en empêcher. Tu peux peut-être, tu peux peut-être tenter. C'est juste plus compliqué de tourner sur toi-même, sur lui, que d'essayer de t'en extirper pour être à côté. À toi de me dire ce que tu choisis, ça sera plus dur l'un que l'autre.
J'essaie de m'extirper parce que la situation où je suis n'est pas vraiment très à l'aise.
Ok. Tu vas me faire, pareil, un test de guerre, guerre et robustesse par contre cette fois, d'une difficulté de 6, aussi avec le désavantage dû à la position. Mais cette fois c'est robustesse.
Quatre.
C'est donc raté. Tu forces. Mais là, il a une prise et tu sens qu'il veut pas la lâcher. Ses jambes semblent comme se resserrer, donc tu n'arrives pas à bouger. Et ses doigts continuent de tourner dans tes orbites. Tu fermes les yeux, mais tu n'y arrives pas, tu sens que ça gratte. Tu me lances un des 10 plus 1, un des 10 plus 2 contre toi. Et attention, parce que là, tu es à 5 points de fatigue, c'est ça ? Ouais, mais t'es à 5 points de fatigue. Donc là, ça peut commencer à cogner même avec, oui. Même sans les armes. Donc 7.
Oui.
Eh bien, tu reprends 2 points de fatigue. Donc maintenant, tu vas commencer à colorier. Donc t'as 2 ronds coloriés.
Donc 6, c'est moins 1.
Donc j'ai un seul, du coup.
De quoi ? Oui, moins 1, pardon. Donc 1 point de fatigue, pardon. Vu que tu as ton infatigable, là.
Oui.
Tu prends un point de fatigue, donc tu seras à moins 1 maintenant à tous tes jets. Et en plus, à la prochaine passe d'armes, mais c'était déjà un peu le cas, tu as un désavantage. Mais de toute façon, tu l'as déjà vu la position.
Oui.
Donc tu as un désavantage et maintenant moins 1 à tous tes jets.
Très bien. Ok. Très bien. Bon, Je vais essayer de saisir ses bras, et de les retirer de mes orbites. Et j'aimerais, même si j'aimerais me relever aussi.
Ok.
Essayer de me relever même s'il reste sur mon dos.
Voilà, il restera sans doute pas sur ton dos si tu parviens à te relever, mais ça va te demander beaucoup d'efforts.
Ah, ok.
Très bien.
J'essaie au moins de le retirer. Mais j'aimerais que si j'arrive à enlever ses mains de mes orbites, j'aimerais continuer à saisir ses mains en fait.
Ah d'accord, j'ai compris.
Parce que je pensais que j'avais fait.
Mais coup, comment tu pourrais te relever si t'es sur le dos? Comment tu peux te relever?
Non mais du coup j'arrête de me relever et j'aimerais juste saisir ses mains et continuer à les saisir.
Mais qu'est-ce que tu voudrais en faire? Tu peux me dire, parce que comme ça je vois
et
derrière.
Les garder dans mes mains pour éviter de qu'il fasse autre chose avec. Et après peut-être au prochain tour je lui foutrai des coups de boule avec, pour qu'il arrête, peut-être qu'il me lâche et autres.
Ah mais faut me le dire, parce que je vais le prendre en compte.
En fait.
Je vais oui mais c'est, en fait, juste s'il arrête de t'attaquer, il y a un statu quo, donc j'ai besoin de savoir derrière quel est l'objectif pour toi, parce qu'on va peut-être le prendre
derrière,
en compte.
Derrière c'est pour l'attaquer.
D'accord.
Derrière c'est pour l'attaquer, soit en essayant de foutre des coups avec ma tête ou autre. Mais là du coup j'aimerais qu'il arrête d'attaquer.
Ok. Eh bien, difficulté 6 toujours, donc c'est robustesse. Et guerre, difficulté 6, avec toujours un désavantage, et moins 1.
Six.
Parfait. Tu réussis à saisir ses mains, tu les écartes, donc tu sens que ça te soulage un minimum les yeux, même si t'as quand même vraiment beaucoup de mal. Et si tu veux lui mettre un coup de boule en arrière, je te l'autorise. Tu peux me lancer un des 10 plus 0 contre lui.
7.
Parfait. Tu lui fous un coup en arrière, comme tu me disais, un coup de boule, tu sens quelque chose de dur, comme si ça lui touchait ses dents. Pouh, il fait un bruit comme ça. Ça a dû faire bien mal. Il prend donc 2 points de fatigue. Et tu auras un avantage par la suite. Donc vu ta position, tu seras juste plus désavantagé. Ce qui est déjà pas mal. Que fais-tu? T'es toujours dos sur lui. Il a toujours les jambes autour de toi. Mais tu as ses mains dans les tiennes. Enfin, ses poignets.
Ouais. Mais j'essaye du coup de me dégager de lui. Pour ensuite essayer de me relever une fois que je suis peut-être dégagé. Si j'arrive à me dégager de lui.
Ok, ouais. Eh ben, adresse et guerre, difficulté 6, sans désavantage ni rien, sauf t'as ton moins 1, bien sûr, de par ta fatigue.
Adresse, ok.
C'est donc raté.
Ouais. Oh ben on va repasser.
Mais voilà ce qui va. Non, parce que c'est pas ça qui se passe. Tu réussis à te dégager, tu sens que le coup lui a fait mal. Donc plutôt que de te retenir, il te laisse partir et il te donne un coup de pied dans le dos qui te déséquilibre un peu au moment où tu te dégages. Mais tu te dégages. Et tu le vois qui se redresse et se précipite vers une dague qui était à terre. Et il la saisit avant que toi tu puisses en saisir une. Il est face à toi et il s'apprête encore à te charger. Que fais-tu? Tu es de nouveau debout.
J'essaye de pas prendre le coup justement et ouais. d'essayer de lui asséner un coup.
Donc tu l'attends quand même.
Oui.
Ok. Il te charge et le but, c'est vraiment qu'il arrive, qu'il te tienne l'épaule d'une main et qu'il te plante comme ils peuvent dans le bide. Fais-moi un test de robustesse et guerre. Difficulté, eh bien 9 du coup. Et tu n'as donc que ton plus 1 de robustesse et ton moins 1, donc plus 0, si je ne m'abuse.
J'ai 2 en robustesse et
un. Ah, 2, pardon. Par... 2, donc t'as juste plus 1.
Oui.
Difficulté 9.
Ben 9.
Oh, oh. Parfait. Fais-moi un test 1 des 10 contre lui, pour voir ce que tu lui donnes comme coup. Parfait. Ça va lui mettre 2 points de fatigue temporaire et un désavantage. Je te laisse me décrire comment tu le gagnes, cet avantage, et quel est le genre de coup que tu lui mets pour en arriver à ça.
Ok, bah justement, j'essaye de... Il arrive sur moi, sauf que bah, j'essaye de... Je me déplace pour pas prendre le coup, et je lui fous un coup de poing sur le côté du visage pour justement l'étourdir un peu.
Ouais. Pouah, le coup est violent. C'est même limite une baffe que tu lui envoies dans l'oreille, ce qui fait que ça doit résonner. Il titube un peu, il se tient la tête, mais il est toujours debout. Mais tu sens qu'il secoue la tête, ça l'a gêné, ça l'a sonné. Il tourne un peu autour de toi comme pour se remettre, mais tu sens qu'il est pas à l'aise. Que fais-tu? Je te laisse la main.
Je poursuis vers lui. Je lui fous. J'essaie de, si j'arrive à lui donner un gros coup de pied dans le bras qui tient à son arme. Et donc. Ou dans le torse pour le faire reculer et peut-être le faire tomber.
Ouais, d'accord.
Si j'y arrive.
Difficulté 9, robustesse et guerre avec. Justement, les modificateurs que tu connais, donc je crois plus 1 au total, hein, si on compte tes malus.
Oui.
Et tu as un avantage, pardon. Parce qu'il a...
Ah, il y a un avantage.
Oui, puisque...
Bon, j'ai fait 10 sans avantage. Je vais voir si je lance un autre T10. Ou pas fait mieux, donc j'ai fait 10.
10 au total.
Oui.
Ok. Lance un des 10 plus 1 pour les dégâts, vu que c'est la marge de réussite.
8.
Très bien, tu lui mets un énorme coup de pied qui le repousse 3 pas en arrière. Il a une sorte d'expiration, un hoquet, il a le souffle coupé. Et tu sens que il est sonné et vraiment il a du mal à respirer. Mais il tient toujours sa dague, il est toujours face à toi, mais 2 mètres devant toi. Tu auras encore un avantage contre lui si tu saisis cet avantage. Pour l'instant, il subit.
Très bien. Mais je continue en allant toujours en restant au corps à corps avec lui, en lui foutant un uppercut au niveau du menton.
Entendu. On va voir s'il va subir ça ou pas. Cette fois, c'est le même jet, mais la difficulté maintenant n'est plus que de 8, parce qu'il commence à faiblir.
Toujours avec l'avantage du coup.
Ouais.
Ben 11. J'ai fait un critique.
Et toi, t'as fait un pacte avec le diable, c'est pas possible. Hein. C'est hallucinant. 11. Eh bien, 1 des 10 plus 3 pour les dégâts.
5.
Ah. Tu lui donnes un uppercut, mais il avait réussi un peu à l'éviter. Il le prend quand même dans le menton, mais pas à pleine puissance. Néanmoins, tu sens que vraiment là, il est plus à son affaire. Il est sonné, il titube, il tient encore sa dague, et il commence mollement à essayer de te percer avec. La difficulté n'est plus que de 6 si tu veux faire quelque chose. Tu sens que là, à moins d'un problème, il est dans le sale drap.
Ok. bah, du coup, je vais essayer de. J'ai essayé de le saisir et de lui donner un gros coup de genou dans le ventre. Si... De le saisir, de le pencher, de le donner un gros coup dans
ça
le
marche. Ventre. Eh bien, même jet, mais difficulté 6, mmh. Et toujours. Ah non, plus d'avantage par contre. Okay. Plus d'avantage.
Neuf.
1 des 10 plus 3.
5.
Tu lui mettras pas un coup dévastateur, mais il en peut plus. Donc tu lui mets un coup de genou, oh, tu le lâches et tu sens qu'il est crevé complètement. Il s'écroule au sol, haletant. Il lâche sa dague. Oh, il y arrive plus. Il y arrive plus.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais? Il est à ta merci.
Je m'approche de lui, j'enlève sa dague de sa main et je prends sa tête, je prends sa tête par les cheveux et je dis: Olin, t'es sûr de ce que tu veux?
Et là, t'entends dans la foule:
Isaac,
ton nom qui est scandé par tous ceux qui regardent et qui ont sans doute mis de l'argent.
Je veux une réponse de Paulin, du coup. C'est...
Paulin arrive à la rambarde et il fait non de la tête. Il peut sortir.
Ok, bah je lâche la tête en la lançant un peu vers le sol violemment, sans non plus essayer de le blesser, quoi. Juste pour montrer que ça m'a un peu énervé ce coup.
Ça marche. Tu quittes l'arène, l'autre il reste complètement à plat, quand il voit qu'il est sauvé, il s'écroule, il tombe sans doute dans les vapes. Et Paulin revient à la table et s'adresse à toi, Stanislas. T'as de la chance d'avoir un solide gaillard qui se bat comme ça pour toi. Si tu me refais un coup comme ça, je vous éventre. La prochaine fois que vous viendrez à Brienne, je veux que vous repassiez nous voir. Et cette fois, il y aura des comptes à rendre. Et vous travaillerez vraiment pour nous. Je sais pas ce que vous allez aller faire maintenant, mais on doit être impliqué. S'il doit y avoir du trafic de marchandises qui reviennent à Brienne, on fera bien en sorte que ça passe par nous. Est-ce que je me suis bien fait comprendre?
Je hoche la tête.
Allez, casse-toi. Tu retrouves Isaac un petit peu plus tard, hors des vestiaires, rhabillé. Tu sens qu'il est vraiment touché quand même, il est bien fatigué. Et vous quittez la fosse.
Je dis juste un truc à Isaac du coup.
Oui.
Bien joué, mais la prochaine fois, sois pas aussi propre, sois vraiment vicieux. Ouais. T'as loupé des occasions où tu t'es fait blesser parce que justement t'as essayé de jouer le trop correctement le jeu.
Et okay. Sur ces derniers mots, vous quittez les lieux.